Bonjour. Alors, on a vu précédemment comment le projet républicain s'était installé et fortifié en France jusqu'à la guerre de 1914. On va voir dans cet audio les effets que la République va avoir sur la vie des Français, mais également sur la vie d'un certain nombre d'habitants de la planète à travers le rayonnement que peut avoir la France. Alors, la France, d'un point de vue de sa société, est une société dans laquelle il y a, comme le dit le titre de ce chapitre, un certain nombre de permanences, de choses qui se maintiennent et de mutations, c'est-à-dire de transformations dans la société française. Si on regarde les transformations économiques qui sont à la base des changements de la société, on a une France qui reste, même à la veille de 1914, un pays extrêmement rural dans lequel la principale activité des Français reste encore l'activité agricole. Il n'empêche que la France est entrée, bien évidemment, au cours du 19e siècle dans ce qu'on a longtemps appelé la révolution industrielle, une révolution industrielle qu'on qualifie aujourd'hui d'industrialisation et dans laquelle on présente finalement deux étapes. Une première étape qui est une forme de première industrialisation centrée sur le charbon, la machine à vapeur et des industries comme les industries de la métallurgie, donc le travail des métaux et du textile. C'est une industrialisation qui commence dans les années 1800-1840. Qui ne touche finalement que quelques régions, les régions essentiellement qui sont soit productrices de charbon, soit productrices de minerais de fer, soit qui disposent d'une population déjà importante et qui peut donc fournir une main-d'œuvre importante pour les activités industrielles. Et puis il y a un deuxième temps qui est ce qu'on appelle la deuxième industrialisation ou deuxième révolution industrielle, qui elle intervient ben, justement à l'époque où la République troisième du nom s'installe en France. Cette deuxième industrialisation, elle est centrée sur des sources d'énergie différentes, qui sont les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, et l'électricité, et qui utilisent des moteurs qui sont le moteur à explosion et le moteur électrique. Dans cette deuxième industrialisation, on voit donc naître des industries comme l'industrie automobile, l'industrie de l'aéronautique, la chimie, etc., etc. Ces progrès industriels que connaît la France sont mis en valeur à travers des grands événements qui sont une imitation d'un premier événement qui avait eu lieu en 1851 au Royaume-Uni. Ces grands événements sont ce qu'on appelle les expositions universelles. C'est l'occasion pour la France de montrer son savoir-faire dans toute une série de domaines à travers donc une manifestation où on expose à la fois tout le savoir-faire économique, industriel en particulier, mais aussi tout le savoir-faire culturel du pays. Dans l'époque qui nous intéresse, la France va avoir à très peu d'intervalle, deux expositions universelles. La première en 1889, la date n'est pas choisie au hasard et a un rapport avec la République. C'est tout simplement le centenaire du début de la Révolution française. C'est à l'occasion de cette exposition universelle que l'ingénieur Gustave Eiffel édifie ce qui est un prodige pour l'époque, une tour métallique de 300 mètres, une tour donc qui domine largement le site de l'exposition universelle et toute la ville de Paris, une tour qui était prévue pour être détruite au bout de 20 ans, ce qui fait qu'elle est toujours présente en 1900, lorsque la France et la ville de Paris reçoit à nouveau une exposition universelle, une exposition universelle qui correspond à Paris avec la création du premier réseau de métro, hein, une ligne qui est aujourd'hui la ligne 1, qui permet de traverser en souterrain la ville de l'est vers l'ouest. Il reste également de cette exposition universelle le Grand et le Petit Palais, qui sont aujourd'hui des lieux d'exposition. Donc la France, économiquement, est une des grandes puissances de cette époque. Elle est avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et un petit nouveau qui monte à l'écart dans son coin, les États-Unis. Une des quatre grandes puissances économiques de l'époque. Ces transformations économiques, cette industrialisation qui se fait plus ou moins rapidement selon les endroits, a évidemment de lentes évolutions sociales. L'industrialisation a fait apparaître deux catégories particulières dans la société française. Première catégorie, les bourgeois. Alors la bourgeoisie, elle existe depuis longtemps, mais là, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie capitaliste, de gens qui investissent donc leur argent directement ou par l'intermédiaire de banques dans les activités de l'industrie. Le modèle, pas parfait, mais assez caractéristique de cette bourgeoisie industrielle, c'est Eugène Schneider qui a développé le site industriel du Creusot. Et Schneider est à la fois au Creusot le patron de l'industrie, mais il est également le maire de la commune, le député. C'est-à-dire que cette bourgeoisie, elle a non seulement un pouvoir économique, mais elle a à côté un pouvoir politique. La deuxième catégorie sociale que crée finalement la période d'industrialisation, c'est celle des ouvriers, c'est-à-dire des hommes, mais aussi des femmes, qui travaillent dans ces industries avec des tâches plus ou moins pénibles, plus ou moins difficiles, mais souvent dans des conditions qui sont bien moins sécurisés que ne le sont les conditions de travail aujourd'hui. On a des journées qui sont particulièrement longues. On a une soumission au pouvoir du patron qui est quasi totale. On est facilement licencié, renvoyé pour faute, même lorsque la faute n'incombe pas forcément à l'ouvrier ou à l'ouvrière. Ces ouvriers sont généralement assez mal payés, même si la rareté finalement des ouvriers sur la fin du 19e siècle, dans une France où la natalité est en baisse, va faire que mécaniquement, les salaires vont avoir tendance à remonter un petit peu. Et puis, la relation qui peut exister entre ces deux classes, la bourgeoisie industrielle des patrons et le monde des ouvriers, est une relation qui est une relation qui est assez diverse. Les patrons se voient plutôt en protecteurs de leurs ouvriers. Ils se pensent supérieurs, ils se pensent capables d'être les seuls à pouvoir mettre finalement ces ouvriers au travail, parce qu'ils sont supposés, les ouvriers, être des flemmards. Ils se voient également les patrons comme étant ceux qui vont apporter une protection à leurs ouvriers, une protection tout simplement en leur permettant de vivre grâce au salaire. C'est ce qu'on appelle le paternalisme, pardon. Le paternalisme, donc, c'est cette forme finalement de domination sociale et culturelle que va avoir le patronat bourgeois sur le monde ouvrier, en étant persuadé qu'il est le seul à savoir de quoi les ouvriers ont besoin. Or, les ouvriers sont tout à fait capables de se rendre compte par eux-mêmes du niveau d'exploitation qu'on leur impose. Et pour se défendre, pour s'opposer à la mainmise qu'a le patron sur leur vie, ils peuvent s'appuyer sur deux lois. Une première qui date du Second Empire, en mai 1864. Napoléon III avait permis que soit instauré le droit de grève, mais ce droit de grève se faisait finalement de manière individuelle. On ne pouvait pas se rassembler pour faire grève, et il faut attendre donc les débuts de la Troisième République aux mains des Républicains pour qu'en mars 1884 soit adoptée une loi sur les syndicats qui permet donc aux ouvriers de se réunir en organisation, organisation qui vont permettre de préparer, d'organiser, de réaliser des manifestations, des grèves, des actions qui doivent leur permettre de faire pression sur les patrons pour obtenir des avancées sociales, pour obtenir des avantages comme des augmentations de salaire ou une réduction du temps de travail. Le problème pour les ouvriers, c'est que la Troisième République, qui se veut un régime démocratique, mais dans laquelle la plupart des dirigeants appartiennent à la bourgeoisie, qu'elle soit industrielle ou bourgeoisie, des affaires de manière plus générale. La ligne que la République se fixe en matière de grève, c'est une opposition. La grève est autorisée, mais à condition que le travail ne soit pas entravé pour ceux qui ne veulent pas faire grève. Ce qui est finalement rarement le cas. Les grévistes font tout pour empêcher que ceux qui ne veulent pas faire grève aillent travailler. Parce que si certains continuent à travailler, ça tue le mouvement de grève. Donc, quasi systématiquement, dès qu'il y a une grève, le gouvernement républicain envoie face aux grévistes l'armée qui est là pour maintenir l'ordre et permettre que l'activité se poursuive au sein de l'entreprise qui est en grève. Cela se traduit généralement par des affrontements et parfois par de véritables massacres. C'est le cas notamment le 1er 1891, le 1er mai 1891 à Fourmies dans le Nord, où une manifestation d'ouvriers en grève se heurte à la résistance de la troupe qui tire et tue une dizaine de personnes. Donc, la République, aussi démocratique soit-elle, face aux mouvements sociaux, face aux grèves, a une attitude qui est une attitude de défense finalement des intérêts des patrons plutôt que d'aide aux intérêts des ouvriers. Même Clémenceau, qui est supposé être quelqu'un qui appartient à la gauche, lorsqu'il accède au pouvoir en 1906, entre 1906 et 1909 comme président du Conseil, ne va pas hésiter à faire intervenir la troupe à plusieurs reprises contre les grévistes et va même s'opposer fermement à ce que les fonctionnaires, donc les agents de l'État, exercent pour leur part le droit de grève. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun progrès? Si, les lois vont petit à petit donner au monde ouvrier un certain nombre d'avantages. Ces avantages vont prendre la forme de lois, des lois qui, par exemple, vont interdire le travail des enfants de moins de 12 ans, ça se passe en 1874. En 1892, vous allez avoir une loi qui va limiter le travail des femmes dans l'industrie. Alors évidemment, on peut se dire que tout ça, ça va dans le bon sens, que ce sont des mesures en plus de bon sens, justement. Les enfants, les femmes n'ont rien à faire dans des travaux qui sont des travaux pénibles. En fait, ces mesures ne sont pas spécialement des mesures sympathiques, ce sont simplement des mesures pour protéger les générations suivantes. Ce n'est pas les femmes que l'on protège, ce sont les mères. Ce ne sont pas les enfants que l'on protège, ce sont de futurs adultes et de futurs adultes, de futurs soldats. Donc si on protège les jeunes et si on protège les femmes, c'est parce qu'on veut s'assurer pour les générations suivantes des petits Français et des petites Françaises qui seront pas estropiés, qui seront en pleine forme et qui, pour les garçons, pourront faire face aux devoirs de la défense nationale. La loi qui est la plus emblématique de cette période, c'est la loi du 30 mars 1900, qui est la loi qui va limiter le temps de travail journalier à 10 heures. 10 heures, ça paraît être évidemment un progrès, puisque jusque-là, les journées de travail pouvaient aller jusqu'à 12, 13, 15 heures, selon la volonté du patron. Maintenant, en 1900, le gouvernement donne la journée de 10 heures, mais pour les travailleurs, on attend déjà la journée de 8 heures. Donc on voit bien que ce que donne le gouvernement de la République est finalement très en deçà des attentes des ouvriers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les travailleurs français sont de plus en plus rares. Car sur la fin du 19e siècle, la France connaît un ralentissement de sa croissance démographique, connaît un ralentissement de sa natalité, et alors qu'elle est une grande puissance économique, une grande puissance industrielle, qu'elle a besoin de main-d'œuvre dans ses champs, eh bien, elle manque de jeunes, elle manque d'une population en âge d'exercer ses différents travaux. C'est pour ça qu'elle se tourne vers l'étranger et que la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle sont marqués par de forts courants migratoires depuis les pays voisins de la France vers la France. Donc, on va avoir dans le sud-ouest de la France des Espagnols qui vont venir s'installer, trouver du travail. On en a un exemple avec un pont de Toulouse qui s'appelle le pont des Catalans, qui rappelle donc justement la forte présence des Catalans, donc venus de Catalogne espagnole, pour travailler dans la région toulousaine. Des Italiens vont plutôt venir dans le sud-est de la France, les Belges dans le nord, des Allemands dans l'est. Hein? Ce sont donc des travailleurs des pays limitrophes de la France, des gens qui aujourd'hui ne posent finalement plus de problème en tant qu'étrangers. On considère que ce sont des gens comme nous. Ce n'est pas du tout le cas à cette époque. À cette époque, l'étranger, quel qu'il soit, est très mal vu, reçoit des manifestations de xénophobie, une opposition très forte, parce qu'ils sont supposés être ceux qui viennent prendre le travail des Français. Et ça va très loin, puisque on assiste de temps en temps à des manifestations violentes de la part des Français contre ces étrangers. C'est par exemple le cas le 17 août 1793, avec le massacre de travailleurs italiens à Aigues-Mortes. Ce massacre de travailleurs italiens à Aigues-Mortes, on ne sait pas précisément combien de travailleurs italiens ont été tués. C'est un événement sur lequel la police française ne s'est pas spécialement penchée pour creuser les événements et savoir précisément qui était responsable, qui fallait arrêter, etc. La xénophobie, à cette époque, ça nous prouve que les choses ne changent pas sur certains points. La xénophobie à cette époque n'est pas véritablement vécue par les Français comme un problème. Le problème, c'est les étrangers. Et ces étrangers, on a l'impression qu'ils viennent finalement envahir la France. Et on le trouve, ce que je vais vous raconter, dans un manuel de géographie, donc dans un ouvrage tout à fait intellectuel et destiné à éduquer les jeunes Français. On imagine que dans certains départements français au début du XXe siècle, l'arrivée de tant de travailleurs étrangers va avoir pour conséquence de faire disparaître les Français, les vrais Français, entre guillemets, de ces départements. Donc on le voit, les réactions racistes par rapport aux étrangers existent déjà à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, dans une République française qui est une République qui est pourtant démocratique et dont le troisième terme de la devise est le mot fraternité.